Donc après une matinée très d'abord européenne, puis française, on va être beaucoup plus régional. Là, en commençant par Nègrepelisse. Alors, on a beaucoup parlé des protestants et des catholiques, en disant quelquefois un peu de mal des catholiques. Alors, voilà, mais on a quand même un prêtre, mais qui est là plutôt comme historien, j'imagine, assez différent du Père Joseph ou de ces figures de ce matin. Voilà. Donc, Georges Passerat, de Société archéologique et historique de Tarn et Garonne, qui travaille beaucoup sur les massacres. Donc, il va nous en... au Moyen-Âge, mais là, on va avancer un petit peu. Donc, il va nous parler du massacre de Nègrepelisse.
Voilà, bien, bonsoir à tous et merci pour cette présentation. Et donc, je vais essayer de retracer donc un événement qui, vous allez le voir, est assez important et qui s'est passé donc cet été, au début d'été 1622. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je vous signalerai que c'est pour tous ceux que j'entends toujours qui nous rabâchent le réchauffement climatique. Et il est dit dans les textes que ce mois de juin a été particulièrement chaud et très éprouvant, et que c'est dit dans toutes les chroniques, et donc c'est ce qui s'est vécu à ce moment-là. Ça peut expliquer l'échauffement des gens à ce moment-là dans les combats. Alors pour comprendre donc les événements terribles de ce fameux 10 juin et 11 juin 1622 à Nègrepelisse, et avec le massacre de la population par l'armée royale, il faut remonter dans le temps. Une année avant, au moment des préparatifs du siège de Montauban. L'histoire du siège de Nègrepelisse se déroule en trois temps: l'investissement, le soulèvement et ensuite le massacre ou l'anéantissement, le massacre de la vengeance. Alors, l'investissement par les troupes royales a lieu le mercredi 11 août 1621. Le climat général de ce mois d'août 1621, donc vous savez que Louis XIII est arrivé le 17 août devant Montauban, hein, se retrouve dans une chanson populaire sur les événements tragiques d'Albias qui eurent lieu justement autour, un peu avant le 15 août, le 12 ou 13 août 1621. Et on peut dire que Albias et Nègrepelisse en 1622 ensuite sont les deux villes martyres de la vallée de l'Aveyron avec Saint-Antonin. Curieusement, c'est dans un recueil de chansons paillardes pour salle de garde qu'il faut aller trouver un poème qui est assez curieux, qui raconte l'affaire d'Albias. Et voici comment on raconte l'arrivée des troupes des rois, du roi Mayenne, qui arrive devant Albias, parce que l'idée, c'est qu'il faut faire le vide autour de Montauban et il faut y installer le roi et les armées royales pour empêcher de soutenir la ville de Montauban pendant le siège. Vous voyez, c'est cette idée, voilà. Entre Caussade, Réalville et tout ce genre. Du mois d'août de l'11e s'avancent les fourriers du grand-duc de Mayenne et 200 cavaliers, gens de fort belle adresse, la fleur de la noblesse, qu'avait dit le seigneur, et entrent dans la ville d'une façon agile, sans penser au malheur. Ils entrent, ils veulent rentrer dans Albias, ils ont été mal reçus. Hein. Dans la ville d'Albias, sera la seule à oser résister à Mayenne et à ses troupes en refusant d'ouvrir ses portes. Et il se produit là, donc en ce mois d'août, avant le 15 août 1621, un premier massacre du style Oradour-sur-Glâne. En effet, pour préparer la venue du roi en direction de Montauban, le duc de Mayenne avait soumise pratiquement, on l'a dit ce matin d'ailleurs, que la plupart se sont rendus, toutes les places protestantes, depuis Mauvezin jusqu'à Villemur-sur-Tarn, et surtout dans un rayon de 30 kilomètres, le mas de Verdun, c'est l'ancien nom du mas Grenier, Corbarieu, Reignès, et du côté de Corbarieu, il y eut quelques escarmouches avec une troupe à cheval menée par le comte d'Orval et un bataillon à pied conduit par Bourfranc. Bourfranc, ça va être un des capitaines vaillants de la résistance à Montauban. Mais le pasteur Joly, qui nous laisse la chronique du siège de Montauban, dit ceci: quand les coureurs du duc de Mayenne parurent, aucun des nôtres les vont attaquer. Presque partout, on ouvre les portes. Et voici ce que dit la chronique du pasteur Joly: Nègrepelisse lui apporte ses clés, Bourniquel, c'est comme ça qu'on disait Bruniquel hein, à l'époque, suit l'exemple, Caussade ouvre les portes et le maréchal de Thémines donc, peut entrer. Et on nous dit que le maréchal de Thémines se contenta de tâter Bruniquel et Saint-Antonin. Saint-Antonin est agité de contraires intentions et ses habitants donc ne savent pas trop ce qu'il fait. Il y a un épisode rocambolesque, je ne sais pas si tu en parleras, du fameux capitaine Pénavert, qui était le grand chef ici qui tenait la résistance et qui a été un des participants du siège de Montauban, qui, à un moment donné, est entrepris pour essayer d'aller de trahir. Et au moment où il a un réflexe, il revient se réfugier avec les gens de Saint-Antonin, c'est raconté dans la chronique de Joly. Pour Négropolis, il est précisé que la ville composa le 11 août 1521. Les habitants obtiennent la vie et bagues sauves. Alors, c'est une formule qu'on emploie à l'époque. Bagues sauves, ce n'est pas de pillage. Hein. On vous pique pas les bijoux. Et un délai de 3 jours pour se décider, rester ou aller se réfugier à Montauban. Et nous savons que 2 compagnies, soit 400 hommes, sortirent sous la conduite des capitaines Marmonnier et Mauroule. La ville appartenait, depuis 1616 seulement, à un proche d'Henri IV, on en a parlé ce matin aussi, Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, duc de Bouillon, prince de Sedan, et Mayenne traite avec un gouverneur du nom de Cercy, établi par la Tour d'Auvergne, avec l'envoi d'une garnison de 400 hommes du régiment de Vaillac. Donc la ville est occupée par un régiment des troupes royales de Vaillac, qui occupe le château pour faire régner l'ordre. Pendant la durée du siège de Montauban, les villages et villes d'alentour serviront de lieu pour installer des magasins de fourrage, de blé, de tout ce qu'il faut, de dépôts de vivres, des hôpitaux aussi, vous verrez, toute la logistique nécessaire à l'arrière pour soutenir les combattants. Donc on a réduit toutes les villes entre Caussade et Montauban et il faut soutenir les troupes royales. Deuxième épisode, premier épisode, nous sommes en août 1621. Deuxième épisode, le soulèvement, le lundi 13 décembre 1621. Le ton général est donné par l'historien Perrin de Grandpré. Vous savez que nous avons des chroniqueurs locaux. Alors, il y a le fameux Lebré, dont je me sers, d'ailleurs, qui n'est pas inintéressant. Et Perrin de Grandpré, c'est celui que j'ai appelé l'autre chanoine, à qui j'ai donné une biographie, qui a laissé aussi une chronique. Et il emploie cette formule, « Négropolis égorge la garnison du roi ». Pour comprendre le massacre de juin 1622, qui nous intéresse, il faut s'arrêter sur les événements de la fin de l'année 1621. Si Louis XIII est revenu, c'est pour se venger. Les Négropolisains ont osé se révolter et ont commis un acte impardonnable. Ce soulèvement de la population a donné lieu à plusieurs interprétations contradictoires. Le premier à avoir commenté l'événement de manière polémique n'est autre que Charles Garrison, dans un article fameux datant de 1894, intitulé « Une erreur historique, les deux massacres de Négropolis en 1621 et 1622 », paru dans le bulletin de la Société d'Histoire du Protestantisme, 1894. Si vous voulez le voir, vous cliquez, Histoire du Protestantisme, vous avez tout de suite sur Internet. Sa position est claire. Louis XIII est un bourreau et les habitants de Négropolis n'ont rien à se reprocher. En tout cas, les événements de décembre 1621 n'ont pas été aussi terribles que ce que nous disent les historiens catholiques. Suivez d'ailleurs mon regard. Le fanatique Henri Lebré, qui était chanoine de Montauban, qui est celui qui a posé la première pierre de la cathédrale de Montauban, qui a été le grand historien 1668, la première histoire de Montauban, non ? Bref, pour lui, pour notre ami Garrison, les catholiques ne commettent que des crimes, les protestants sont toujours gentils et du côté des persécutés, si vous lisez Garrison. Une mise au point, reprenant toutes les sources, a été faite de manière claire par un vieil ami de la Société archéologique, dont je veux saluer ici la mémoire, un homme de Négropolis, André Lombraille, qui était donc membre de notre Société archéologique à cette époque et pendant longtemps, qui traita ce sujet le 15 octobre 1998, lors d'une journée d'études à Négropolis, prise de Négropolis par les Montalbanais. Vous pouvez aller voir le bulletin social archéologique de 98. Donc. En fait, ce qui permet de voir le montage réalisé par les auteurs fanatiques du côté catholique, c'est tout simplement la date de ces événements. Les sources contemporaines, et même Lebré, qui écrit 45 ans après les faits, nous disent la vérité. Il s'agit bien d'une offensive des Montalbanais et de celui qui a été le vaillant héros du siège, le capitaine Vignot, qui était resté seul comme gouverneur de la ville de Montauban après le départ des troupes de Louis XIII qui avait eu sa défaite devant Montauban. Et à ce moment-là, donc, Lebré lui-même donne la bonne interprétation. Vignot, le capitaine en question, protégé de Sully, ancien gouverneur de Négropolis avec Balaguier, qui était le gouverneur de Saint-Antonin, ameutait tout autour les garnisons de Caussade, de Bruniquel, d'Arduz, de Picocos, de Loubéjac, et il harcelait avec les troupes de Montalbanais les représentants de l'armée royale, qui étaient sous les ordres du maréchal de Thémines en résidence à Cahors. Les troupes royales avaient capturé, une cinquantaine de chevaux chargés de blé. J'ai l'impression d'être en Ukraine, hein, c'est la guerre du blé. Et qu'ils allaient moudre au moulin d'Albias, car tous les moulins de Montauban étaient rompus. Vous voyez, c'était l'époque après le siège, ça, à la fin de l'année 1621. Un auteur anonyme, très fiable, dont le récit est conservé aux archives départementales de Tarn-et-Garonne, c'est un manuscrit qui a été publié, dont je me suis beaucoup servi pour faire l'histoire du siège, dans l'Académie de Montauban, dans le recueil, en 1903, situe l'événement le 12 décembre 1621. Écoutez ce qu'il dit. C'est un protestant qui écrit. Les troupes qui estoient en cette ville allaient redonner sur la ville de Négropolis, cette ville c'est Montauban, et la surprendre le lundi matin du 10 mois. Avant le jour, il fut tué 214 hommes de la garnison qui avaient été laissés, et les autres qui se retirèrent dans le château se rendirent à telle composition que leur vie leur fut sauve et que de 4 drapeaux qu'ils avaient en laissèrent 2 et les autres emportèrent. Ce qui est confirmé par une note tirée du registre d'un notaire de Négropolis, Pierre Besse, cité d'ailleurs par Charles Garrison. Le 13e décembre, Négropolis fut prise du côté du Moulin. Il faut toujours se méfier de la passage sur le Moulin, vous allez voir. Avec un coup de pétard par M. Vignot, le capitaine Marmonnier, Rouffio et Antoine Marcoux, et fut tué 8-20 hommes, comptez, ça fait 170, de la garnison. M. Roumégousse, prisonnier, Le Buscon et M. Pujol, c'est les notables de Négropolis, et 30 hommes dans le château, sortis avec leur vie sauve par composition. À un jour près, la date est la même. Garrison, lui, parle du 14. Il me faut vérifier, d'ailleurs, la version d'un certain manuscrit rouge, mais je ne crois pas que ce soit les annales de Montauban, cité par Garrison, où le rôle de Vignot est même glorifié. Ce sont des Montalbanais qui écriraient, qui parlent de 300-400 hommes de garnison tués, mais les autres éprouvèrent l'humanité du sieur Vignot qui leur donna la vie, or qu'ils méritassent d'être tous pendus à cause des ruines, saccages et outrages que ces soldats avaient faits dans ce lieu auparavant contre la foi promise. Et ce fameux Vignot, qui est un héros du siège de Montauban, sera tué dans un combat sous les murs de Villebrumier le 16 mars 1622. On n'a pas arrêté de guerroyer tout autour pendant que le siège a été fini. D'où vient donc le récit sanglant colporté par Lebré, repris par Jean-Ursule de Valls dans sa fameuse histoire de Négropolis. De Valls, donc, c'est un des fondateurs de la Société archéologique en 1866, très bon archiviste, qui vous allait passer une après-midi à Caylus ou à Verdun ou à Négropolis, il vous relevait toutes les archives qu'il y avait à l'époque, il vous en faisait une publication de 20 pages, et très, très bonne, hein, c'était extraordinaire. Hein. Il profitait du train à l'époque, et il allait partout relever tout ce qu'il y avait d'intéressant. C'est le premier grand archiviste de Montauban. Donc d'où vient son récit qu'on trouve dans cette histoire de la ville de Négropolis? D'après ce récit, rempli d'atrocités, l'événement se serait produit dans la nuit de Noël, non plus le 12 décembre. À mon avis, il a eu lieu le 12 décembre, et c'est Vignot qui a pris la ville. Mais le 24 décembre au soir, au moment où on se prépare à aller à la messe, avant la célébration de la messe de minuit, ce qui explique d'ailleurs l'invective fameuse de ceux qui égorgent les soldats avinés. Ils avaient commencé le réveillon déjà. Bay entraîne la messe au Alifère. Va-t'en entendre la messe à l'enfer, rapportée par De Vals. Le récit de Lebray est plus sobre. Les habitants de Négropolis, plus crédules ou plus méchants que ceux de Caussade, conjurèrent contre leur garnison, composée d'environ 400 hommes du régiment de Vaillac, je vous l'ai expliqué avant, les tuèrent tous en une nuit, et après que les femmes, attention, et les enfants eurent exercé sur leur corps des cruautés inouïes, les jetèrent dans la rivière. Relevons tout de suite. Ce détail assez peu répandu, pour devoir le souligner, sur la férocité des femmes et des enfants qui fait songer à la fureur antique des tragiques grecs, les Furies, les Érinies et autres Médées, pour expliquer souvent ces scènes. Cela devient, sous la plume de Vals, et nous sommes à l'époque romantique, 1860-1840, il écrivait de Vals, une vraie scène d'opéra romantique, les femmes, exaltées par la vue du sang, exercent sur ces infortunés les cruautés inouïes et jettent dans l'Aveyron des corps encore palpitants. Retenons qu'il ne s'agit pas d'une révolte générale de la population de Négropolis, mais bien d'un coup de main réussi, entrepris par les Montalbanais, sous la conduite de Vignaud. Comme un deuxième échec des troupes royales vaincues lors du siège de 1621, la revanche de Louis XIII sera terrible, disproportionnée. Et elle se résume pour moi dans la formule d'un des grands témoins et un grand combattant de Louis XIII, le maréchal de Bassompierre, que j'ai mis en titre « Tout y fut tué », qui trouve un écho dans le manuscrit du chanoine Perrin de Grandpré et fit passer au fil de l'Espée tout ce que l'on rencontre dedans. Cela rappelle pour moi le trop fameux « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », jour de la Sainte Madeleine aujourd'hui, 22 juillet 1209, massacre de Béziers. Allez, on arrive au massacre. Donc. Ah, il ne marche pas là que tu dis. Allez, pas allumer peut-être aussi. Qu'elle a caché Jésus. C'est bon ? Elle a été éteinte peut-être. Non ? C'est bon là ? Alors, pour le site. Je n'ai pas fort pour, comme les jeunes là, pour faire les. Mais enfin, c'est comme ça, ce sens qu'il faut faire. Voilà. C'est pour voir le site de Négropolis actuel. Vous voyez bien la Bastide au milieu. Donc, on peut affirmer d'emblée que le siège de Négropolis, entrepris par le roi Louis XIII les 10 et 11 juin, se présente à nous comme un remake en plus petit de celui de Montauban l'année précédente. Tout d'abord, notons-le, c'est le roi en personne qui mène la campagne, et même on peut dire que cette fois-ci, il ne passe pas son temps à la chasse. Il est sur le terrain avec ses troupes qui l'accompagnent, et même s'il devra se contenter d'assister aux événements de Négropolis depuis la fenêtre d'une maison. Une des chroniques dit « une méchante chaumière où l'on étouffait de fumée ». Alors, si en plus il y avait la canicule, vous voyez, donc il était malade et dans une mauvaise, une vieille maison mal foutue, une bicoque, non depuis la fenêtre de la maison, car il a été malade pendant tout le siège de Négropolis pendant ces 2 jours. Il était parti de Villemade le 8 juin, après le déjeuner le matin. Oui, moi je parle toujours, quand je dis déjeuner, c'est le matin, dîner, c'est midi, et souper le soir pour moi. Hein. Il passe symboliquement près de Montauban, et sans vergogne, notez ça, il pique-nique à 11h à Albias, dans un châle labouré au grand soleil, encore une fois le grand soleil, la canicule, comme pour s'imprégner de l'esprit des lieux. Et il va voir les attaques que se faisoient à Négropolis qui avait refusé ses portes. Ensuite, les préparatifs du siège se déroulent comme à Montauban, au mois d'août 1621. Les différents régiments se positionnent pour encercler la ville et on y retrouve, une fois de plus, la fine fleur de la noblesse française qui, cette fois-ci, ne sera pas décimée, même si vous allez le voir, qu'ils ne sont pas très dégourdis comme chaque fois. Et au premier coup qu'ils vont donner, il y en a 10 qui vont être décaniés en sens inverse par les assiégés. On retrouve comme commandant en chef celui qui fut le plus vaillant à Montauban, le maréchal de Bassompierre, alors qui est en guerre permanente avec le prince de Condé, qui était à ce moment-là celui qui avait l'influence, l'oreille du roi, et ils sont toujours en train de se disputer d'après les mémoires de Bassompierre. Le maréchal de Bassompierre associé à son fidèle assistant pour l'artillerie, le maréchal de Chambert. Bassompierre a laissé des mémoires très détaillées et aussi, à mon avis, très fiables. Son récit vivant, plein d'anecdotes, retrace bien l'ambiance de ce siège éclair. Il refait le chemin bien connu, Bassompierre, parce que c'est lui qui a mené les troupes, depuis Moissac, qui lui fait franchir l'Aveyron à Picquecosse, le mardi 7 juin, alors que le roi loge à Villemade, on nous dit, à la vue de Montauban. Depuis Villemade, il regarde Montauban de loin. Il se permet, sur ordre du roi, en guise de provocation, le Bassompierre, de battre l'estrade, jolie formule occitane, battre l'estrade, c'est faire devant, hein, aller devant la vue de Montauban, avec 200 chevaux devant les murs. Un autre officier, alors nous avons comme source, donc, en plus de Bassompierre, le marquis Jacques de Chastenay de Puységur, lieutenant général des armées, qui a laissé un récit de cette expédition. Nous avons aussi le maréchal de Pontis, mais vous verrez qu'il est assez peu fiable, car ses mémoires n'ont été publiées que bien longtemps après, en 1764, alors qu'il s'était retiré à Port-Royal et qu'il avait, paraît-il, changé de sentiment. Bon. Et j'ai trouvé aussi un obscur soldat qui s'appelait de la Sablonnière, Pierre Bourdeau, et qui, c'est intéressant, comme on l'a pour le siège de Montauban, un ancien un lieutenant qui a laissé des mémoires aussi, qu'on a ouvert il n'y a pas longtemps, on a pour le siège de la Négropolis un obscur soldat, un fourrier, ce qu'on appelait les fourriers, c'était ceux qui étaient chargés d'aller en avant pour préparer l'installation des armées et pour faire mettre en place les vivres, tout ce qu'il fallait, les tentes, etc. Donc, et il nous laisse un exemple, c'est un adjudant des gardes du roi, si vous voulez, qui s'appelait Pierre de Bourdeau. Son témoignage n'est pas inintéressant, je crois que je citerai peut-être quelques détails. Alors, la différence du siège de Montauban, la place de Négropolis n'est pas équipée pour se défendre, et elle est livrée à elle-même. Tout le monde nous dit, sans aucun chef, avec seulement des mousquets, d'ailleurs des fusils, pour se défendre. Elle ne peut donc pas résister bien longtemps. Même si les notables du lieu ont eu le toupet, donc, de refuser d'ouvrir la porte aux fameux fourriers et autres carabins envoyés en avant-poste pour demander à l'armée du roi si elle pouvait se loger. On a vu l'image ce matin d'une porte qui s'ouvre et tout le monde vient remettre les clés devant Louis XIII quand il demande l'entrée. Du côté local, le camp des vaincus, nos sources documentaires se résument à très peu de choses. On n'a que le récit encore de ce fameux chroniqueur anonyme de Montauban qui commence ainsi. Le printemps venu de l'année 1622, le roi revint en ce pays, parce qu'il écrit moitié occitan, moitié français, avec son armée, et vint un soir coucher à Villemade, passa avec l'armée du dit Villemade vers Négropolis, et près de cette ville, Montauban, pour voir la contenance qu'on tient droit, mais estant avis qu'on était résolu à souffrir un second siège, sa majesté passa outre, et l'armée, il ne voulait pas en faire dans un second siège, l'armée alla prendre Négropolis le jeudi au soir, 10e juin, il s'est trompé de jour, c'est le 122, et aussitôt, ce même soir, le feu fut mis et continue tout le lendemain, en telle sorte que cette pauvre ville fut entièrement embrasée et mise à sac, qui fut une grande désolation et perte. Là, vous avez un résumé, voyez, de la situation, ce qui s'est passé, la prise, le massacre et le feu. Aucune allusion, pour lui par contre, au massacre de la population, dont nous allons parler et qui fut pourtant bien réel. Une dernière caractéristique du siège de Négropolis, c'est qu'il a donné lieu lui aussi à des représentations graphiques, imprimées. Je n'ai pas su en retrouver d'autres que celles que je vous montrerai tout à l'heure, qui viennent du fameux ouvrage de Valdor, qu'on a déjà montré ce matin. Et elle permet de voir une image d'ailleurs qui ressemble au plan diffusé au sujet du siège de Montauban, avec les pièces d'artillerie, les différents camps en place. On ne peut pas trop se fier à Charles Garrison pour avoir un récit raisonné de ce siège. Et notre meilleur spécialiste de cette période, qui s'appelait Paul Bergeon, sollicité à l'époque en 1998, s'est pas beaucoup fatigué, il s'est contenté dans une courte note de reproduire en partie seulement le récit du maréchal de Bassompierre. Ça s'appelle Négropolis et les malheurs de 1622, Société archéologique, 1998. Si on ne veut pas entrer dans les détails des troupes armées, les noms des régiments avec tous leurs capitaines, leurs emplacements, le plus simple est de se contenter du travail de synthèse très bien fait de notre ami de Valls. Ils sont trois capitaines à commander, menés par Bassompierre. Le régiment de Picardie, le premier à gauche, proche de l'eau. Ensuite, le maréchal de Praslin avait le régiment de Navarre au milieu, à droite de Picardie, et le maréchal de Chevreuse avec un autre régiment. Autour de la ville sont installées 8 pièces de batterie. Les troupes royales, leur arrivée, ont campé dans le secteur des Gardios. Alors les Gardios, vous voyez, c'est quand on arrive d'Albias, vous avez l'Aveyron là, hein, vous arrivez d'Albias, vous voyez les Gardios là, hein, là. Donc c'est là, le nord quand on arrive, et vous avez Négropolis ici. Et l'intérêt du récit. Et ensuite, donc, Louis XIII avait donné l'ordre de ne pas creuser de tranchées, parce qu'il a dit que ça ne va pas durer longtemps, comme s'il y avait un long siège, mais de procéder au plus vite à l'assaut. Bassompierre avait le régiment des Suisses et des gardes, se poste sur la rive droite du ruisseau de Longuesaille. Alors vous repérez l'Aveyron, vous le voyez, et le ruisseau de Longuesaille, vous le voyez là, il descend, hein, il y a la maison de retraite maintenant de Longuesaille. Mais c'est là, hein, vous voyez l'eau en bleu. Hein, ouais. Donc il se place à droite sur du ruisseau, entre la porte d'Amont et le château, avec l'artillerie sous les ordres de Schomberg. Alors on va passer, comment je fais pour passer à l'image suivante, à Calcaccia, à la flèche, non? À qui le vélo? Bon, le passe, qu'est-ce qui se passe? L'image suivante, j'ai pris un plan de 1810 qui est très intéressant. Voilà, celle-là. L'image de 1810, voilà. Alors là, vous avez le plan cadastral de 1810, et j'y ai ajouté, voyez, le nom des portes, donc vous avez beaucoup d'eau, vous voyez, il y a même une île hein, qui est marquée, vous avez un ancien bras ici de l'Aveyron, et vous voyez l'emplacement des anciens fossés, on le voit très bien là, hein, la protection par l'eau de Longuesaille, il y avait là l'emplacement de l'eau encore qu'on voit marqué en 1810 sur cette zone, et donc ils sont installés ici, et dans cette zone, c'est là que ça va se passer. Et vous avez le château, j'ai marqué en jaune, vous voyez, ici, et les trois portes, la porte d'en haut, la porte basse, on l'appelle celle-là. Et donc, c'est celle par où on arrive quand on vient d'Albias. Et vous avez la porte d'en bas, vous voyez, la porte haute, on l'appelle, hein, et la porte Saint-Blaise, qui est en face de l'église. L'église est là, voilà. On le voit, la flèche, quand je fais. Hein, ouais. L'église est là. Voici quelles étaient, nous dit De Vals, et son récit est très intéressant. En ce moment, les défenses de Négropolis. Au nord-ouest, une plateforme très élevée, nommée l'Éperon, protégeait une des portes de la ville, dite la porte basse. Donc, c'est celle que vous avez en haut. Celle d'Amont, donc celle d'en bas, appelée aussi porte haute au sud-est, était défendue par un ouvrage fortifié dont l'emplacement a gardé le nom de Pentagone. Je l'ai trouvé nulle part, mais je ne suis pas allé voir le cadastre. Hein. Je ne suis pas un Négropolis, moi. Ainsi que par une redoute ou bastion. Quant à la troisième, celle de Saint-Blaise, donc, celle qui est sous l'église, qui s'ouvrait à l'est de la ville au-dessous de l'église, elle formait la tête de pont jetée sur le ruisseau de Longuesaille. Donc vous le voyez le pont là, hein, voilà. Au nord-ouest s'élevait le château, bâtiment à peu près rectangulaire, dont les angles étaient défendus par quatre tours rondes et le côté faisant face à la ville par une grosse tour carrée. La ville était ceinte d'une simple muraille, sans flanc ni terre-peint. Les chroniques disent une méchante muraille. Hein, donc, ça veut dire que c'était trouvé de partout. Au pied de laquelle coulaient au nord l'Aveyron et le ruisseau de Longuesaille, tandis que sur le reste de son étendue, le rempart était protégé en très grande partie par double fossé qu'alimentait un petit ruisseau descendant des hauteurs de Saint-Gilles. Pour faire vite, sans entrer dans les détails, on peut dire que Négropolis fut prise en un clin d'œil. Au début de la nuit du 10 juin au soir, le premier coup de canon, parti des batteries, fait tomber le dérisoire mur d'enceinte et les artilleurs essuient les plâtres. Et je vous l'ai dit, le siège de Montauban n'aura pas servi d'exemple. Mis à découvert, une dizaine d'officiers sont tués et une vingtaine de Suisses qui maniaient les canons. Donc là, ils ont été aussi mauvais qu'à Montauban. Mais ils repèrent vite les trois meurtrières du château, d'où partaient les coups de mousquet. Elles furent vite neutralisées. 6 coups de canon suffirent à ouvrir une brèche dans les remparts de la ville, ce qui entraîne l'assaut général par les portes d'en bas et de Saint-Blaise. Le roi à la fenêtre, toujours, demande aux assaillants de mettre un ruban blanc à leur chapeau. Je vous commande de ne faire aucun quartier à aucun homme parce qu'ils m'ont irrité et qu'ils méritent d'être traités comme ils ont traité les autres. Et c'est là que tout fut tué. Les envahisseurs se battent au corps à corps avec les habitants décidés à se défendre pied à pied. dans les moindres recoins de la ville, en vendant chèrement leur vie. Tous les hommes furent tués, à l'exception de ceux qui purent se réfugier au château et d'une dizaine qui promirent de payer une rançon. Le lendemain, samedi 11, eut lieu la reddition du château, et là, tous les hommes furent pendus. Ils obtinrent un curieux privilège, d'ailleurs, celui d'être pendus dans leur jardin, dans leur vigne, aux arbres environnants, sur les places alentour, comme la place de Montauban, des pendus, vous voyez. Drôle de spectacle lugubre. Est-ce que c'est que les protestants qui aiment reposer sur leur terre où ils ont vécu ont choisi cette manière de mourir? Parmi ces notables, alors ça c'est intéressant, celui-là il est marrant, enfin on peut dire, se trouvait un apothicaire, le pharmacien de l'époque, qui avait fourni des drogues, on emploie le mot drogue, en Occident on dit des poutings, pour les blessés pendant le siège. Donc il fallait ramener les blessés du siège de Montauban pour les soigner, ça faisait hôpital. On apprend ainsi donc que lors du siège, Négropolis servait d'hôpital. Mais au lieu de les soigner, il leur donnait un breuvage empoisonné. Il fut donc du nombre des pendus aux arbres. Dans la tuerie générale, les chroniqueurs, qui sont tous des militaires, Chastenay, Bassompierre, De Pointis, etc., décrivent sans sourciller le sort particulier réservé aux femmes et aux jeunes filles. Elles furent toutes forcées, donc violées. Bassompierre ose même dire que certaines, gagnées par une lubricité malsaine, se laissèrent faire. On retrouve là un thème de l'Antiquité, des tragédies grecques, la folie ou l'égarement. Peut-être la chaleur qu'il y avait. Voyez. Celles qui essayèrent de s'enfuir avec leurs enfants périrent noyées, les femmes et les enfants, hein, ou furent abattues en essayant de traverser sur le barrage du Moulin. Pour rester dans les lieux communs des histoires de siège, là aussi dans les romans antiques comme dans les romans de chevalerie, Pointis, dans ses mémoires, se donne le beau rôle et il raconte une curieuse anecdote développée longuement, vous la retrouverez aussi dans l'histoire de Négropolis de Devals, qui échappa au massacre une jeune fille de 17 ou 18 ans parce qu'il la cacha dans sa hutte, il emploie ce mot pour désigner la tente des militaires, dans la carcasse d'une génisse qui avait été tué la veille et qui était suspendu. Ça devait sentir. Enfin, voilà. Donc, alors, chaque fois que quelqu'un rentrait, tapait à la porte d'un officier ou quelqu'un, il disait à la jeune fille, va te cacher dans la carcasse de la génisse pour éviter qu'on te voie, pour qu'on ne puisse pas repérer que je te cache. Avec l'accord du roi, cette jeune fille fut rendue à ses parents, qui étaient des notables, et même dit-il que lui était ministre, c'est-à-dire pasteur. On est en plein conte de fées. Qui vise, vous voyez, à masquer l'horreur des massacres en s'inspirant du cheval de Troie. Il raconte aussi le geste généreux d'un certain Roger, valet de chambre du roi, qui a racheté avec ses pistoles une quarantaine de filles. C'est raconté aussi dans le Mercure François. Et une sorte de petit pousset qui sauve avec ses piécettes autant de filles qu'il en jette à poignée. Des pièces. Pour terminer le tableau de l'horreur absolue, la ville fut incendiée, ravagée par le feu, qui acheva ainsi la purification de la ville rebelle. De Valls donne le chiffre de 500 cadavres brûlés dans l'incendie, de 183 portés dans une fosse collective hors de la ville. C'est le chiffre qui est publié à l'époque, donc, dans le compte-rendu officiel du Mercure François, qui tire la leçon de ce massacre. Voici la punition que reçurent ceux de Négropolis, pour les cruautés par eux usées sur les corps morts de la garnison du roi qu'ils avoient inhumainement massacrés. Le lendemain, le roi sortit, il déjeuna à Montricou, il prit la route de Saint-Antonin, et la ville de Négropolis n'obtint le pardon du roi qu'en 1646, plus tard, grâce à l'intervention de Turenne. L'histoire ne se termine pas là pour Négropolis. Alors il faut recommencer. Remets-moi les images. Car les historiographes du roi ont cherché à justifier, voilà le plan de Val d'Or, ça c'est le plan qu'il y a dans le fameux livre de Val d'Or dont je vais vous parler, vous voyez. Vous avez une représentation du siège, le château est là, hein. Le château est en bas. Non, il est là, je vois là, il est là. Voilà, il est là, oui, vous voyez l'Aveyron là. Vous avez l'Aveyron là, le ruisseau doit être là. Voilà. Et il y a les cornes, vous voyez, on voit des cornes. Mais je ne sais pas s'il est fiable. Hein. Je ne sais pas qui est-ce qu'il a fait. Si vous avez des informations, vous me les donnerez. Moi, je n'en ai pas beaucoup. Mais je vais le citer, Valdor, pour autre chose. Donc, l'histoire ne s'arrête pas là pour Négropolis, dont les historiographes du roi ont cherché à justifier un pareil massacre. Et on ne résiste pas impunément à sa majesté. Alors, il y a eu ensuite, il faut que j'efface l'image suivante, il y a eu ensuite un libelle imprimé qui est tout un programme. Voilà, celui-là. Ah oui, ça, c'est dans Val d'Or. Dans Val d'Or, il y a aussi le récit de la prise de Négropolis avec le texte en français et le texte en latin. Le même texte, hein, « A rege vindicatum hein, », donc « expugnatum hein, », les prises. Vous avez un texte dont je la photocopie, là, mais je vais y faire allusion tout à l'heure. Donc, et non seulement il y a ça, mais il y a eu aussi une autre image. Alors. Il y a eu une autre image, un libelle imprimé, « Le grand et juste châtiment des rebelles de Négropolis », vous voyez, « mis et taillé en pièces, et leur ville réduite à feu et à sang par l'armée royale à Rouen », attention, 20 juin 1622, la vengeance du roi est justifiée en rappelant la révolte des habitants du mois de décembre 1621. Écoutez le début de ce récit imprécatoire. Vous sustes la perfidie des habitants de Négropolis, ville située à 3 lieues de Montauban, qui égorgèrent tous les soldats de la garnison que le roi y avait mise, et le refus que les 10 habitants rebelles ont fait à sa majesté de lui ouvrir les portes de leur ville et leur témérité à vouloir soutenir le siège d'une armée royale, eux qui n'en étaient ni munis ni fortifiés. Ainsi apprendrez-vous maintenant la punition exemplaire qu'ils ont soufferte en leur vie, en leur bien, en leur honneur. C'est un récit très bref d'une dizaine de pages qui exalte la sauvegarde des femmes et des filles en rappelant que les hommes furent tués, étranglés ou pendus. Il est imprimé donc dès le 20 juin 1622, c'est quoi ? C'est comme si un journaliste avait fait, parce que l'information, il faut qu'elle circule quand même. 10 jours après les faits, chez Pierre Recollet, donc, serait-ce pour faire taire des rumeurs sur l'horreur des faits connus de tous ? C'est sûr que c'est de la propagande, hein, cette plaquette. Ensuite, il est reparlé du siège de Négropolis dans ce fameux ouvrage de Val d'Or, dont je vous ai montré la page, hein, que j'ai ici, « Les triomphes de Louis XIII le Juste, roi de France et de Navarre ». 1649, l'imprimeur Henri Estienne, grand imprimeur. Chaque bataille est accompagnée d'un récit en français, traduit en latin. Il y a une image du plan, dont je vous ai montré le plan, des gravures thématiques, comme les tableaux bien connus. Alors, il faut prendre la suivante. Un tableau d'entrée de roi dans les villes rebelles, assez éclairant, pour avoir une idée. C'est pas celle-là, oui, celle-là, c'est Saint-Antonin. J'avais pris Saint-Antonin à tout hasard. Celle-là, voilà. Les triomphes de Louis XIII. Vous avez Louis XIII en frontispice avec son triomphe. La suivante, ensuite. Vous avez la reddition d'une ville, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est les poèmes qui sont en bas. Voilà, la reddition d'une ville, le titre, et la dernière. La dernière, vous avez une reddition de ville. Le thème qui aborde l'entrée du roi dans les villes rebelles est assez éclairant pour avoir une idée de cette idéologie guerrière entretenue par les artistes au service du monarque et de sa propagande. Et attention, messieurs, mesdames, le poème que je vais vous lire, il est signé Pierre Corneille. Il fait rimer Négropolis avec justice. Sinna, la clémence, c'est exactement ça. Tel entrant ce grand roi dans ses villes rebelles, de ses cœurs révoltés fait des sujets fidèles, un profond repentir désarme ses rigueurs, et quoique le soldat soupire après la proie, il l'apaise, il l'arrête et se montre avec joie, et père des vaincus, et maître des vainqueurs, et dégrener les villes conquises, Caumont, Clairac, Tonnens, Privat, Négropolis, ressentent ces traits vifs de la haute justice et peuvent reconnaître, après un long effroi, par le courroux du ciel, la justice du roi. Morale, et qui veut affermir un trône légitime, doit semer la terreur aussi bien que l'amour. On retrouve cette rhétorique sur la clémence royale, impossible, dans la page, donc en latin et en français, que j'ai ici, consacrée au siège de Négropolis, accompagnée du fameux plan. Ils préférèrent le fer à la corde et ils aimèrent mieux mourir en soldat qu'en criminel. Donc, ils font allusion quand même à une certaine résistance. Le maréchal de Pontis, qui écrit à la même période, longtemps après les faits, a au moins le mérite de reconnaître la vaillance des défenseurs de Négropolis. Et il note même, comme un hommage aux vaillants défenseurs, que l'armée royale a perdu bien des siens dans les combats au corps à corps et dans les rues de la ville. Ben, ils ne sont pas laissés faire, les habitants de Négropolis. Par contre, la propagande royale omet de parler du massacre de la population, du viol de toutes les femmes. On connaît bien cela, d'ailleurs, dans tous les récits de vainqueurs. Les Romains qui s'emparaient des villes en Espagne, lisez le siège de Numance, de Sagonte, de Calahorra, je crois que c'est la ville qui est jumelée avec Ossade, Calagouris, préféraient raconter que les habitants s'étaient suicidés eux-mêmes plutôt que de raconter que c'était les Romains qui étaient rentrés qui avaient tué tout le monde. C'est la même histoire à Massada. Hein. Les historiographes de Louis le Juste préfèrent cacher la vérité des faits et tenter maladroitement de parler d'un petit reste qui aurait bénéficié de la miséricorde royale au service de Sa Majesté Louis le Juste. Pierre Corneille se fatigue pour rien.
Bien, je ne sais pas s'il faut vous remercier pour un récit de massacre, mais ça va peut-être susciter quelques questions. On a un petit moment.
Bonjour, je passe à juste, oui, parce que j'ai peut-être mal suivi, mais à un moment donné, je ne sais pas si Louis XIII, quand il a décidé ce qu'il allait faire à Négropolis, connaissait la première version que vous nous avez donnée de l'égorgement de la garnison. Est-ce qu'il la connaissait ?
Sûrement.
Il le savait.
J'avais bien entendu, puisque c'est rappelé après comme l'événement provocateur et c'est la source de tout le reste. Je pense qu'il savait bien que les habitants avaient osé lui résister et qu'il a voulu exprès aller se poster là en passant près de Montauban et aller directement là.
Oui, mais vous avez mentionné le coup de main de Vigneault.
Oui, oui.
Qui est à l'origine.
Oui, qui est à l'origine.
Donc
oui.
L'initiative est venue.
Mais il s'est passé en décembre. Donc
oui,
il avait le temps
début
d'être informé.
Début décembre et 24 décembre. La vérité, c'est que c'était début de
le 13 décembre. C'était le 12 décembre.
C'est le 12 décembre.
Oui, mais il est arrivé qu'en août, Louis XIII.
Oui, donc il avait eu le temps de savoir
ce qui s'était passé. Il avait le temps de la prendre.
Il savait ce qui s'était passé.
Il savait très bien que la population de Négropolis s'est rebellée. Enfin, il s'est rebellée. A chassé l'armée royale.
Oui, mais à l'instigation de Vigneault, qui était défenseur de Montauban. Voilà.
Et peut-être une participation plus ou moins quand même des habitants aussi.
Parce que la version qu'on entend, qu'on lit souvent, c'est...
C'est la rébellion générale avec les femmes qui ont tué tout le monde. C'est pas vrai, ça.
On a hébergé à domicile tous ces 400 oui. Soldats en garnison.
Oui.
Et la nuit, on les a égorgés.
C'est une armée d'occupation, de toute façon. Oui, c'est une armée d'occupation royale contre des protestants qui avaient été chassés. Alors, ce qui est dit aussi quand même, ce qui est souligné, c'est qu'une grande partie de la population, du moins les hommes valides, ont dû partir pour se réfugier à Montauban, aller en renfort pour aller à Montauban à l'époque, en août 1621, puisqu'il y a 400 personnes qui sont sorties avec les capitaines pour aller en soutien à Montauban. Hein, voilà. Mais il en restait encore quelques-uns, sûrement. Ouais. Peut-être pas les plus vaillants, ou les plus valides.
Pour suivre ce dialogue, est-ce qu'il avait besoin de cette fermeté à Négropolis pour avoir à Saint-Antonin une attitude toute différente? Et ce qu'on nous a dit ce matin, c'est qu'il ne venait pas...
Et oui, mais là, en tout cas, le résultat est là. C'est-à-dire qu'on voit très bien. Et c'est justifié par la suite. C'est-à-dire que le libelle, le fameux... Alors, je ne sais pas, moi, je ne connais pas assez les historiographes du roi, comment ça travaillait à l'époque. Cette plaquette donc, qui est publiée dès le 20 juin, ça correspondait à quelque chose. Toi, tu connais mieux que moi, je ne connais pas la période. Qu'est-ce que ça veut dire qui peut produire un tel texte, par exemple?
En fait, on a parlé à table tout à l'heure, mais les campagnes de Louis XIII à partir de l'intervention en Béarn ont donné lieu à un véritable monument littéraire. En fait, on a parlé de la bataille de Foch. Vous voyez tous où est Foch. Donc, dans le Tarn, à côté d'Albi, c'est un embryon de bataille dans lequel il y a quand même Mayenne, donc il y a un personnage important. Et en fait, ça a donné lieu à trois opuscules. En fait, à partir de 1619-1620, il y a ce que l'historien Christian Jouot appelle les pouvoirs de la littérature, où il y a une prise de conscience par les gouvernants de gouverner en justifiant par l'écriture. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle des occasionnels, en fait. Et d'un point de vue économique, ces petits occasionnels, c'est ce qui permet de faire vivre les imprimeurs provinciaux. C'est-à-dire qu'un occasionnel comme ça, ça a une existence de 5 jours. C'est pour ça qu'il faut que ça aille très vite. C'est comme un journal. C'est un factum, ça fait 10 pages. C'est imprimé en une nuit. Le texte est souvent copié de l'un à l'autre. Là, vous nous avez montré celui qui était publié à Rouen, mais il est bien dit qu'il était copié de celui qui était à Paris. Et je mettrai ma main à couper qu'il y en a le même à Lyon. C'est, l'imprimeur, il a ça devant son étal. Et ça se vend 3 francs 6 sous, ça lui permet de vivre et derrière d'avoir une activité éditoriale un peu plus ambitieuse.
Quelqu'un qui a étudié pour savoir s'il y en a beaucoup d'exemplaires qui traînent en Gallica maintenant.
Alors, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un doctorant qui se mette en thèse là-dessus. Mais c'est un sujet de thèse. Là, ça, c'est un sujet pour moi. Je pense que
thèse, oui.
La question de la construction littéraire autour des campagnes militaires de Louis XIII contre les protestants dans les années 1620, compte tenu de la masse documentaire, puis derrière, il faut faire toute une histoire sociale des imprimeurs, comment circule l'information, qui écrit, qui établit le texte, qui l'imprime. Donc il y a tout un travail qui n'a pas été fait, mais ça rentre dans une problématique plus globale. Et là, les historiens ont beaucoup travaillé justement sur ça, la question de la littérature. Enfin, Richelieu, il crée la Gazette en 1631, oui. L'Académie française en 1635. Le Mercure François est là pour relayer l'information officielle. On est au moment où l'État invente la propagande officielle de son service politique. Voilà. Et donc, du coup, le massacre de l'Agropolis aurait eu lieu 20 ans plus tôt, on n'aurait rien. C'est très conjoncturel. En fait, ça correspond... Voilà, donc, les tableaux qu'on a de Val d'Or.
Oui.
Et là aussi, ça rentre dans cette même politique éditoriale de valorisation et par l'image. En fait, il y a trois outils. Il y a la gravure, il y a l'occasionnel sans image et il y a l'atlas militaire qui est un atlas manuscrit là dans lequel il y a aussi beaucoup de plans et qui ont accompagné ces campagnes. Mais là, on est vraiment dans une construction de glorification royale.
Oui.
Il faut montrer que le roi est fort, il faut montrer que l'adversaire est fort et il faut montrer que... César, dans la guerre des Gaules, il fait la même chose. C'est-à-dire on accroît la puissance de l'adversaire pour montrer la puissance du roi. Et c'est une vraie politique de communication. Donc il faut faire attention quand on utilise ces sources. C'est-à-dire que ces récits, c'est pour ça qu'il faut les croiser, ce que vous avez fait avec Bassompierre.
Il faut les croiser avec les sources locales. Voilà.
Mais c'est des occasionnels dont la vocation est de glorifier, le roi.
Oui, il faut essayer d'échapper, donner une autre image.
Lors du colloque des académies, j'ai fait une étude justement sur l'impact politique et médiatique qu'avait eu le siège de Montauban. Et lorsque j'avais fait des recherches, j'avais été impressionné par le nombre de références qu'on retrouvait soit dans la littérature, soit dans d'autres écrits, les références à ce siège. Et évidemment, Pierre-Jean a raison, toute la propagande royale a consisté à occulter justement l'importance de cet échec et à montrer que cet échec, finalement, il était peu de choses et que, de toute façon, la reconquête se ferait. Et évidemment, on est en pleine propagande royale, en pleine naissance d'un absolutisme qui est en construction et que Richelieu, évidemment, parachèvera par la suite. Voilà.
Il y a cette image du roi, je te vois, qui m'a frappé. Je te vois. Autant il a été absent à Montauban et il se tenait loin, autant là, ça a été, ça a été plus rapide. Hein. Et donc, il savait qu'il allait gagner, en quelque sorte. Et en plus, je ne sais pas si tu en parleras, mais j'avais noté qu'à cette date donnée, il fait un carton en plus. Il s'est permis un carton, le roi. Si tu en parleras, sûrement. Il participe activement.
Oui, cette propagande est peut-être d'autant plus importante que Louis XIII a eu des alliances avec des princes protestants. Donc son catholicisme n'est pas forcément complètement assuré aux yeux de l'opinion et qu'il a besoin du soutien des dévots français. Et là, c'est la bonne occasion de montrer qu'on se bat contre les protestants. Donc ça peut peut-être jouer aussi.
Négrepelisse est un cas unique dans la campagne.
Mais c'est pas un cas unique. Il y a eu Albias avant. Il y a quand même Albias. Le massacre d'Albias, il est réel aussi. Bon, et il s'est produit avant le siège de Montauban. C'est la seule ville qui a fait semblant de les accueillir, les troupes royales, et puis une fois qu'ils ont été à l'intérieur, ils se sont révoltés, etc., ils l'ont payé cher. Bon. Hein ? Il y a Albefeuille-la-Garde aussi. Il y a eu un truc à Albefeuille-la-Garde aussi, j'ai noté. Donc, qui a été aussi massacré un peu.
Il y avait deux lignes complémentaires
oui.
À l'œuvre.
Ah, c'est des cas isolés, peut-être. Oui. Je ne sais pas d'autres cas de ville, oui, c'est ça. Est-ce que dans le, à Clairac, tout ça, là, y a, ça a été assez sanglant aussi. Il y a eu quelques capitulations. Ouais. Il semblait que dans Lot-et-Garonne, les endroits, il y a eu...
On va pouvoir passer à la communication suivante, passer donc de Nègrepelisse à Saint-Antonin.